بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا شفيع الإسلام نغمسي الله سبحانه وتعالى qui nous donne la possibilité de reprendre nos programmes de tafsir après la trêve du mois de Dhul-Hijjah et la période du Hajj. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla d'accepter les actions qu'il nous a donné tawfiq de faire pendant la première décade, les premiers 10 jours du mois de Dhul-Hijjah, et que les personnes qui ont eu la chance, qui ont été choisies par Allah Azza wa Jalla d'accomplir le Hajj, qu'Allah accepte leur pilier, qu'Allah accepte leur amal, Allah accepte leur dua, les dua qu'ils ont fait pour eux et les dua qu'ils ont fait également pour nous. Si nous ont pensé, inshallah, de le dua. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, c'est dans un hadith, il a dit que Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj. Il avait demandé, oh Allah, pardonnez aux pèlerins et pardonnez aux personnes pour lesquelles le pèlerin demandera istighfar, demandera tawbah. Quand un hajj, Arafat, il lève les mains, il demande dua pour lui, il demande tawbah pour lui, assurément Allah accepte. Mais s'il prend votre nom, Muhammad, Ismail, Ishaq, Yaqub, Abdullah, Inch'Allah, son intercession, son dua pour son frère musulman sera accepté. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Allah d'accepter le dua du pèlerin en faveur de son prochain. Allahumma taqabbal. Donc, on avait commencé il y a quelque temps le tafsir de Suratul Inshiqaq. On avait fait quelques versets, mais je pense qu'il est opportun de reprendre un petit peu depuis le début, parce que après 2 mois, hein, 1 mois et demi d'interruption, je pense qu'on a tous, moi en premier, perdu un peu le fil de la sourate. Où est-ce qu'on était arrivé? Très brièvement, « Idha as-samaa'u unshaqqat jusqu'à wa adhinat li rabbiha wa huqqat. » 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets. Au début du sourate, Allah Azza wa Jal rappelle quelle sera la situation de la terre et la situation des cieux le jour de Qiyama, lorsqu'Allah Ta'ala ordonnera au dunya, ordonnera la fin de ce dunya, comment sera la situation des cieux et comment sera la situation de la terre. Concernant le ciel, إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, le ciel se déchirera par ordre d'Allah Azza wa Jal. Alors que le ciel est une des plus grandes créatures d'Allah, une des créatures les plus impressionnantes, les plus solides, et une des plus grandes preuves de l'existence d'Allah, de la grandeur d'Allah, de la perfection de sa création. Mais le jour des comptes, Allah Ta'ala ordonne à ce ciel qui jusque-là était solide, qui était un rempart entre les gens du dunya et les gens de l'au-delà, qui fait en sorte que les gens de ce monde ne peuvent accéder au monde de l'au-delà, parce que ce ciel, c'est une frontière, c'est une limite. Et le ciel, ce n'est pas juste une illusion optique, comme le disent les météorologues, les scientifiques, etc. Le ciel, c'est quelque chose de concret, de dur. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, on avait déjà dit avant ça, il est parti pour le voyage nocturne, arrivé au premier ciel, le ciel Sama ad-Dunya, l'ange qui est avec lui cogne à la porte du ciel, isti'dhan, il demande l'autorisation, est-ce qu'on peut entrer? Il dit, qui es-tu? Il dit, moi je suis tel ange. Il dit, qui est avec toi? C'est qui cet homme? Ça, c'est Muhammad. Il dit, est-ce qu'il a déjà été envoyé sur la terre? Il dit, qu'il soit le bienvenu. Ils ont cité les louanges, les éloges, pour sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que les ulama disent que comprenons que le ciel, ce n'est pas une notion abstraite. Le ciel, c'est quelque chose de réel, de dur, de palpable. Ce n'est pas parce que les scientifiques n'ont pas découvert c'est quoi le ciel, que le ciel n'existe pas. On ne se base pas sur ce qu'ils ont découvert ou sur ceux qu'ils n'ont pas découvert pour dire que la chose existe ou non. De même, on ne se base pas sur ce qu'ils savent ou sur ceux qui ne savent pas pour dire que telle chose est bon ou telle chose est mauvaise. On est en 2012, petite parenthèse, puis on reviendra sur le verset. On est en 2012, il n'y a jamais eu autant de cancers, il n'y a jamais eu autant de cancers dans le monde qu'en 2012. Tous les colorants, tous les additifs, tous les produits chimiques, la bisphénol, tous ces produits qu'on utilise depuis 15, 20, 30, 40, 50 ans, qui sont dans notre consommation courante, actuelle, domestique, hein, je ne parle pas d'un professionnel qui travaille dans une usine en contact avec des produits, non, à la maison, vous chauffez le lait de votre bébé dans le biberon, en chauffant le bisphénol, hein, il y a des risques qu'il devienne obèse, il y a des risques qu'il développe telle carence, tel problème. Bref, ces scientifiques, ils étaient où là? Bouge plus? Où est-ce qu'ils étaient? Pourquoi ils ne nous ont pas mis en garde? Attention, ces grands penseurs, ces grands savants, ces grands chercheurs qu'ils ont étudiés à, je ne sais pas, Cambridge, à Oxford, à je ne sais pas quel endroit, grands scientifiques, grands professeurs universitaires qui donnent des leçons, qui disent que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, et donc je crois que ce que je vois est que le développement des cellules, des tout, nous prouve largement que la vie tient son origine du Big Bang, qui est un grand hasard de l'histoire de l'humanité, etc., parce que nous avons découvert, parce que nous avons compris, parce que nous avons réalisé, parce que nous, abrutis, vous tendez à nous cancer depuis 20, 30, 40 ans. Les colorants, le bisphénol, les additifs, tous ces trucs qu'on est en train d'utiliser. Et il y aura encore des belles et des pas mieux qu'on va découvrir dans les années à venir. Et il y a des choses qu'ils savent déjà, mais qu'ils ne dénoncent pas, qu'ils ne peuvent pas dire. Autrement, s'ils le disent, qu'est-ce qui se passe? Des usines se ferment. Chômage, chiffre d'affaires, CAC 40, je ne sais pas, le Down Street, je ne sais pas quoi et tout, ça chute. On préfère voir 1 million de personnes atteindre cancer par an que de voir des entreprises fermées. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie de notre société. Et ça, ça nous donne une image de ce que valent vraiment nos scientifiques. Dans 2 ans, on est en 2012, avant 2015, il y aura des études qui vont prouver que tout ce qu'on utilise comme appareil téléphonique, GSM et les antennes relais, tout ça, ça cause des cancers. Même s'ils le savent déjà, mais s'ils l'annoncent, vous vous rendez compte? Combien de population mondiale? Quelle population? 7 milliards, on est à peu près, non? 8? 7 milliards. Sur 7 milliards, il doit y avoir 4 milliards de personnes qui ont un portable au moins. D'accord? Si du jour au lendemain, on dit que ça donne cancer du cerveau ou telle chose, 4 milliards de personnes jettent leur portable et c'est des sociétés, c'est des fortunes qui s'écroulent. Bref, on n'est pas là pour faire un coup de. On n'est pas Bill Gates. Et encore vivant, il est mort, lui. Et moi, non. On n'est pas Bill Gates, on n'est pas l'autre là. Comment il gagne 600 000 dollars pour une conférence, l'ancien président des États-Unis? On n'est pas là pour faire une conférence là-dessus, mais pour qu'on comprenne que malheureusement, il y a des gens qui disent, oui, mais les scientifiques ont découvert. Quand il y a une opposition entre ce qu'un scientifique a dit et ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé, ils disent que oui, mais les scientifiques ont découvert que. Enfin, je parlais avec un monsieur, un vieux monsieur, je le vois en train de boire de l'eau debout. On dit à la personne, oui, mais subhanallah, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'assoyait pour boire de l'eau. Occasionnellement, il a pu boire debout. Mais en temps normal, le prophète s'assoyait. La personne dit, oui, mais les docteurs ont prouvé que quand on boit debout, c'est mieux pour le transit, ça descend directement, etc. Na'oudhou billah. Tu me parles de ton médecin, ton généraliste. Moi, je te parle de un Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, prophète de l'humanité. Celui qui, la yantiqu anil. Hawa, il dit rien de ce qu'il pense, lui. Tout ce qu'il dit, c'est décision. Tout ce qu'il dit, c'est ordre d'Allah, c'est révélation, c'est ce qu'Allah a mis dans son cœur. Ça, c'est Nabiullah, Nabi Rahman. Tout ce qu'il dit, c'est vérité. Et le Prophète, lorsqu'il a dit quelque chose, lorsqu'il a donné le message, il a tout donné. Durant sa prophétie, il a tout expliqué. À Makkah et à Madina, quand il est décédé, quand il est retourné auprès d'Allah, tout ce qu'Allah l'avait révélé, il l'a propagé. Tout ce qu'Allah a mis dans son cœur pour dire aux gens, il l'a dit. Et il ne revenait pas sur ce qu'il disait. Il n'y avait pas de contradiction. Tout ce qu'il dit, c'était haqq. C'était la vérité qui émanait d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de la machine humaine. Donc, pour revenir à nos moutons, à nos scientifiques et à nos cieux, si les scientifiques n'ont toujours pas découvert que le ciel existe, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Un jour, peut-être qu'ils vont découvrir. L'endroit le plus loin où ils sont partis, c'est la planète, c'est là, la planète, même pas une planète, c'est la Lune. Et encore. on va pas être trop parano non plus. Si c'est vrai ou s'ils sont très forts en effets spéciaux, Dieu seul le sait, Allah seul le sait. Bref, c'est pas demain la veille qu'ils vont aller sur une planète. La Lune, c'est pas une planète, ça. C'est un satellite de la Terre. Le jour où ils iront sur une planète, là, on va recommencer un peu sur le ciel. Mais tant qu'ils n'ont pas dépassé les limites de la Lune, qu'ils ne viennent pas nous dire que le ciel n'existe pas, qu'il n'y a pas sept cieux, et que c'est une aberration de croire qu'il y aurait sept cieux, et qu'il y aurait des créatures dans ces cieux. Subhanallah, il ne connaît même pas combien de globules blancs il y a dans son corps, combien de globules rouges il y a dans son corps, quel virus est en train de, il est en train de respirer un virus au moment qu'il vous parle, c'est en train d'entrer dans son corps. Allah ordonne à son corps de se défendre, ordonne aux globules blancs d'aller détruire, d'aller, de subhanallah, de produire des enzymes, je dis des mots hasard, des enzymes, ou alors des défenses pour bloquer ça, ça. Il y a tellement de choses qui se passent dans son corps, dans sa vie, son existence, il n'est même pas au courant, et il parle du créateur des cieux et de la terre. En disant qu'un tel existe, na'oud billah, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Donc nous, mu'min billah, notre ilm, notre science, notre conviction, nos croyances, viennent directement de la parole d'Allah. De la parole du Créateur des cieux et de la terre. Donc si Allah dit que le jour de Qiyamah, le ciel va se fendre, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, qu'on arrive à comprendre, à intégrer ou non, le ciel se fendra. Le jour de Qiyamah, parce qu'Allah l'aura ordonné et obéira à son Seigneur et fait ce qu'il doit faire. Depuis le début de l'humanité, le ciel est resté solide. Le jour des comptes, le jour de Qiyamah, Allah ordonne le ciel. Maintenant, ta mission est terminée. Tu n'es plus la frontière entre les gens du dunya et le delà. Le ciel se met à, le ciel se casse, hein. Shaqqat, se déchirera. La terre, elle est arrondie. D'accord? Et le jour de la résurrection, le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala ordonnera à la terre Muddat. Wa idha al-ardu Muddat, et que la terre sera nivelée. C'est comme une image, hein? Vous avez une grosse boule, hein, de pâte de pizza, d'accord? Fait comme ça, 20 cm comme ça, et vous l'étalez au maximum pour qu'elle devienne plus plat. Et quand elle devient plus plat, si pendant ce temps, dans la boule là, il y avait des grumeaux, il y avait des petits trucs et tout, ben quand vous l'aplatissez, les petits trucs sortent. S'il y avait un petit morceau, je ne sais pas, de sésame ou de graines ou de je ne sais pas quoi qui était dans la boule, quand vous l'étalez, tout ça, ça sort. Pareil, quand la terre va s'aplanir, les corps vont ressurgir. Alors que la mission de la terre était de garder les corps. Allah ordonne à la terre de garder les corps. Après, bien sûr, il y a des catastrophes naturelles, et puis quand il y a trop de pluie, ça c'est autre chose, ça c'est des exceptions. Mais la terre, elle a également comme mission de garder ce qui est enterré dans son sein, au creux de la terre, dans son ventre, on va dire, d'accord? Et le jour des comptes, Allah Ta'ala dit, wa alqat ma fiha wa takhallat, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, c'est-à-dire, en parenthèse, les morts, et se videra. Et là aussi, c'est par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhinat li rabbiha wa huqqat, et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Donc dans ces 5 versets, Allah azza wa jal décrit la situation de deux grandes créations, ciel, terre, le jour de Qiyam. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, on passe à l'être humain. Et quand je dis l'être humain, c'est insan. C'est pas musulman, c'est tout être humain. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Verset qu'on avait déjà expliqué. 6e verset. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras. Alors, on avait expliqué, en résumé, que quelle que soit la manière qu'on a orienté notre vie, le sens qu'on a donné à notre existence, notre degré de pratique, notre absence de pratique, notre croyance en Allah, l'absence de croyance en Allah, notre piété, notre hypocrisie, nos bonnes actions, nos péchés, peu importe la situation, en finalité, chaque être humain retourne auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça c'est le deuxième enseignement. Le premier enseignement de cette sourate, c'est que toute créature obéit à Allah, même les plus grandes, les plus fortes. Et quand Allah leur ordonne de changer de nature ou de passer à une autre étape de leur mission, ils obéissent à Allah, l'exemple avec les cieux et la terre. Deuxième grand enseignement,
quelle que soit la manière qu'on a vécu dans ce dunya, en finalité, nous retournerons auprès d'Allah. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans d'autres versets, inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Bah là, c'est un verset un peu plus précis. Al-iyaba, retourner. Chaque personne retourne vers Allah. Comme on vient de voir dans le verset de Al-Inshiqaq, mais là en plus, il y a inna alayna hisabahum. Quand on retourne auprès d'Allah, c'est dans quel but? Pour qu'Allah nous juge, le hisab. Pour qu'Allah juge les personnes, comment est-ce qu'ils ont vécu dans ce dunya. Mais la différence entre le retour auprès d'Allah du mu'min, le retour auprès d'Allah du musulman pieux, le retour auprès d'Allah du musulman pécheur, pécheur en Dieu aussi fasiq, munafiq, hypocrite, le retour auprès d'Allah du mushrik, celui qui ne croyait pas en Allah, celui qui ne croyait pas en l'existence d'Allah ou qui adorait d'autres qu'Allah, c'est là que se différencient ces gens. Tout le monde retourne auprès d'Allah, mais pas de la même façon. Et ces étapes-là, c'est visible dès le moment où la personne est dans la phase intermédiaire où il quitte ce dunya. C'est lorsque vient l'ange de la mort, Malik al-Maut. On avait déjà expliqué, quand c'est un musulman pieux, comment l'ange de la mort se présente à lui, avec quel cortège d'anges magnifiques remplis de lumière. Quand c'est un pécheur, ou alors si c'est, na'oud billah, quelqu'un qui n'a pas iman, quelle scène horrible. La simple vision de l'ange de la mort est déjà son plus grand azab. Alors que pour le mu'min, la vision de l'ange de la mort, c'est déjà sa plus grande récompense, parce que jamais il n'aura vu, contemplé quelque chose, je veux dire quelque chose, quelqu'un, c'est pas un ange de la mort, n'est pas un être humain non plus, il n'aura jamais une vision aussi magnifique de toute son existence, c'est-à-dire au moment où il quitte ce dunya. Nous on croit qu'il est en train, il souffre bien sûr, mais nous on a pitié, il pousse son dernier soupir, certes, mais il est en train de voir quelque chose de magnifique. Il est en train de voir l'ange de la mort sous son plus belle apparence qui lui annonce sa bonne nouvelle qu'Allah Ta'ala est content et satisfait de toi. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Il annonce sa bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de lui. Ça c'est le retour auprès d'Allah d'un homme pieux. Tandis que pour le kafir, celui qui n'a pas la foi, celui qui est resté dans la désobéissance d'Allah, on avait expliqué que la vision de l'ange de la mort, c'est quelque chose d'horrible et de monstrueux. C'est déjà un azab pour la personne, et malheureusement c'est annonciateur que tous les événements, que toutes les étapes qui vont venir après, ce sera des situations de pire en pire catastrophiques. L'étape de l'enterrement, selon certaines sources également, il est dit que lorsqu'on lave le mort, les actions sont près de la personne, bonnes comme mauvaises. Donc là aussi, on distingue le pieux du pécheur ou du kafir. Moment de poser dans la tombe, bien sûr, lorsque la personne est enterrée, avec les questions des anges qui viennent, le musulman qui répond avec grande facilité, la tombe qui s'élargit, les actions, les a'mal saliha sont près de lui, une fenêtre du paradis s'ouvre pour lui, et là, le parfum du paradis, et il repose en paix jusqu'au qiyam, jusqu'à la résurrection. Le pécheur endurci, ou le kafir, le mushrik, lorsque les anges lui posent les questions, les trois questions, il dit « Ha, ha, ma adri ». Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il angoisse, comme il dit, il stresse. C'est pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Et la tombe se rétrécit. Il y a différentes punitions et différents adabs qui commencent dans ce monde qui s'appelle le Alame Barzakh. Et même si, ça c'est le troisième enseignement, bon, on va pas tout développer, mais par rapport à ce qu'on avait dit là, les fois d'avant, qu'une personne reste sous terre 100 ans, 200 ans, 400 000, 2000, 3000 ans, Allah seul sait combien de temps on reste sous la terre jusqu'à la résurrection, ça passe comme un clin d'œil. Ça passe comme un clin d'œil parce que la personne est dans un état, on va dire, semi-inconscient. C'est comme si une personne, j'avais donné des exemples, si quelqu'un a dormi toute une nuit, hein, il s'est couché très tôt, de 20h, et il se lève le matin, hein, il n'a pas conscience que ça fait 12 heures que je dors. Donc quand il se lève, c'est comme si rien n'était, c'est comme si quelques instants se sont passés. Un échelle un peu plus fort, ben, on avait donné l'exemple d'Ashabul Kahf. Ils sont restés dans un sommeil profond, 300 Salah Samiya Sinin ou Atisa Sinin, près de 309 années. Oui, on ne dit pas d'erreur, pas de bêtises. Salah Samiya Sinin ou Atisa Sinin. 309 années dans ce sommeil. Et quand ils se sont réveillés, ils se sont dit combien de temps on a dormi? Quelques temps. C'est-à-dire que quand quelqu'un dort et est dans cet état-là, la personne n'est pas consciente du temps qui passe. D'accord ? C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, les événements s'enchaînent jusqu'au retour auprès d'Allah. C'est pas comme s'il a une vie encore passée dans la tombe, sous terre, qui dure 5, 6, 7 fois le vécu qu'il a eu. Non. C'est quelque chose qui passe extrêmement vite. Maintenant, comparer ces années sous terre aux 50, 60, 70 ans de ce dunya, les ulama disent, est-ce que ça valait le coup de sacrifier la vie du dunya, de céder au plaisir, de céder au péché, de faire le haram, quand on sait que l'étape qui va venir après, cette étape-là, elle est éternelle. Ces 300, 400 ans qu'on passe sous terre, ça passe comme une seconde. Quand quelqu'un quitte ce dunya aussi, c'est comme s'il a vécu quelques instants. Quand quelqu'un meurt, il dit que c'est comme si toute sa vie défile devant ses yeux. On a entendu cette expression. Hein, il a vu toute sa vie défiler devant lui. D'accord ? C'est-à-dire que quand quelqu'un quitte ce dunya, c'est comme s'il a vécu quelques instants. Il n'a pas conscience que ces 80 ans, j'ai bien vécu, ça fait beaucoup d'années. Non, c'est comme si c'est un laps de temps et l'âme sort, la personne, il a l'impression que ben, j'ai rien passé, j'ai pas vécu. C'était rien ça. Mais est-ce que ça valait la peine, le peu de temps qu'on passe de ce dunya, de le passer dans la désobéissance d'Allah, sachant que l'étape, la véritable étape qui vient après, c'est l'étape de l'au-delà, c'est l'étape de l'éternité. Est-ce qu'un musulman intelligent, il sacrifie 50 ans, il brade 50 ans de sa vie dans le péché, et il sait qu'avec ça, il perd l'éternité, ce serait vraiment le plus grand des perdants. Donc quand l'être humain analyse la notion de temps du akhirat, ça lui permet de comprendre, de re-examiner, de reconsidérer sa notion de temps. Là, des fois on se dit que n'a encore le temps, n'a pas le temps. Des fois on se dit que maman il est encore jeune. Ou alors moi-même je suis encore jeune. Des gens ils viennent par la salat, toi tu dis ben je suis encore jeune, 35. Et 40, quand j'aurai 40 ans, quand je serai à la retraite, là je veux venir à la masjid. Quand je serai à la retraite, là on va laisser la barbe blanchie. On va laisser la barbe pousser. Après, il va blanchir, il va faire direct deux étapes. D'accord ? Et là, je vais faire mes salats, je vais rattraper, je vais faire telle chose. Ya Akhi, est-ce que on peut se permettre de dire que on a le temps ? La ilaha illallah. Quand la personne quitte ce dunya, c'est comme si, comme on a dit tout à l'heure, il a vécu quelques jours. Et ces quelques jours-là, ces quelques années-là, ça a une valeur inestimable. Parce que la seule chose qui provoquera un petit chagrin dans le cœur des jannati, dans le cœur des habitants du paradis. Ils ne sont pas tristes, hein, mais il y aura un seul petit remords. Et on va voir dans un instant qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres remords qui sont absents du paradis. Ah, ça c'est Ajib. Mais le seul remords que les gens du paradis auront, ce sera quoi ? C'est, ils se diront là-haut, bon, je veux dire que nous aussi on se dira Inch'Allah. Bah, on me dit que peut-être qu'Inch'Allah n'aura pas regretté, on sera dans le Firdaus. Mais si dans mon premier degré de paradis, il signe tout de suite le papier. Mais signe tout de suite, d'accord ? Donc les gens du paradis, ils vont juste regretter si seulement on avait passé plus de temps dans l'adoration d'Allah, on n'avait pas perdu du temps de ce dunya, on aurait été à des grades plus hauts. Parce que celui qui est dans le premier degré du paradis, c'est pas comme celui qui est dans le Firdaus. Mais il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'amertume, il y aura juste au début ce sentiment de frustration et que la personne se rendra vraiment compte que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps de ce dunya. Vous savez, à Montreuil, on fait un autre thème, hein, les thèmes de Aqidah, de croyance, et on parle de l'au-delà. Et on est dans une phase un peu longue, hein, qu'on développe un peu, sur les personnes qui seront, les situations des gens le jour des comptes, le jour de Qiyam. Et on voit un chapitre qui parle des personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyam. Hadith très connu. Et parmi ceux-là, il y a le jeune qui a passé sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah. Vous avez expliqué que la jeunesse, ça commence à partir de quel âge? Ça va, selon certains savants, jusqu'à 33, d'autres qui disent jusqu'à 40 ans. Mais on appelle ça la jeunesse. C'est le moment clé de votre vie, de votre existence. Celui qui passe cette jeunesse dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance, quand on dit dans l'adoration d'Allah, hein, c'est pas qu'il est dans masjid depuis l'âge 13 ans jusqu'à l'âge 40 ans, il n'a jamais sorti, hein. Non, c'est vivre normalement sa vie, mais rester dans les limites. Faire ce qu'Allah a ordonné de faire et s'éloigner de ce qu'Allah a interdit, respecter les ordres d'Allah, développer la crainte d'Allah, l'amour d'Allah dans son cœur. Alors que quand on voit donc le temps, l'importance du zaman, du temps pour un jeune, et que nous voyons nos jeunes perdre leur temps dans des futilités, dans des choses vaines. Hein, à un moment donné, on parle de distraction, on a besoin de se détendre, je suis d'accord, mais combien il est temps, combien on est en train de se distraire? C'est pas que les gens se distraient, c'est qu'ils sont en train de brader, de perdre l'essentiel de leur temps. Avec ces jeux vidéo, avec ces jeux en ligne, avec l'internet, avec les oui, les non, avec les tous ces trucs-là, les heures et les heures cumulées, les jeux en ligne, il y a des gens, des élèves même, hein, des grands, hein, ils commencent, quand ils sont en vacances, le samedi matin, c'est après Fajr. Après Fajr, encore il fait Fajr, alhamdoulilah. Après Fajr, il commence le Ben Histoire, je ne sais même pas comment ça s'appelle, Call of Duty ou je ne sais pas quoi. Call of Duty, Poutine, Kafar, il n'y a pas. Et ça va jusqu'à le repas. Il mange, il recommence, c'est-à-dire comme un Ajib, le temps qu'il perd. Il y en a qui font les nuits. Il y en a qui font les nuits, que le matin il lève à Fajr. On ne dit pas que c'est haram. Fajr, bien sûr, on ne dit pas que c'est haram de passer une journée, une demi-journée, de ce genre de choses. On ne dit pas que c'est haram. Mais ce temps-là, il est tellement précieux. C'est comme si on a envie de les prendre par la main. Ces jeunes, dire que mon jeune ami, si tu savais l'importance de chaque minute, tu es en train de vivre des moments en or. C'est-à-dire, il faudrait que quelqu'un d'âgé, qui n'a pas su profiter de ce temps, voit ses enfants et leur explique que moi, regarde, ma barbe a blanchi, j'ai passé ma jeunesse dans les garments, dans telle chose, tu es encore jeune. Si, ça, l'idéal, ça aurait été quelqu'un qui revienne de là-haut, qui vienne expliquer, mais c'est pas possible. Le dîn ne marche pas comme ça. Le dîn ne marche pas par des choses qu'on voit. Le dîn, ça fonctionne par des choses qu'on croit. Sinon, Allah aurait pu envoyer un ange qui descend du ciel avec des photos en JPEG ou en PDF ou en PowerPoint et tout. L'ange vient dire, bon allez, bouge pas, Moïsa, arrête de causer, moi c'est l'ange qui habite dans tel coin du paradis. J'ai des photos, des clichés du paradis, des clichés de l'enfer et des clichés des gens qui seront punis. Voilà Pharaon, crasé, son tête finit pété. Voilà Qarun, voilà Haman, voilà Lot et tout et tout. Et regarde, ils étaient riches, regarde ce figure, regarde celle-là, regarde ce qui est arrivé. Donc, vous croyez pas? Là, tout le monde est saisissement, ensuite il monte, ah, c'était à nous croire. Fini là, dit madame, téléphone, jette télé, casse Canal Sat, résilie, parabole, machin et tout. Maintenant, mettre Moussallah partout de la case, maintenant on a compris. Mais les choses ne se passent pas comme ça. La sunnah d'Allah, c'est tu crois, tu réussis. Tu crois pas, ben tu crois pas, tu verras. Tu crois pas, tu vas voir les conséquences. Et puis Allah est Arhamur Rahimin. Donc voilà, si quelqu'un pouvait revenir de là-haut et expliquer à nos shababs, à nos jeunes, que tu vois, les années que tu passes là, ça c'est l'or. Ça c'est l'or. Et ce moment-là, si tu pouvais le consacrer au dîn d'Allah, à tous nos jeunes, Allah Musta'an, arrivé le samedi soir, qu'Allah seul sait ce qui se passe, hein, les égarements, les sorties, les virées nocturnes, les péchés qui sont accomplis. Et tout ça, vous croyez que c'est un hasard, ça? Tous les plaisirs qui sont installés autour, c'est la sunnah d'Allah, que l'enfer, hein, il y a plein de choses qui mènent vers l'enfer. Hadith de Jibril, d'accord? Mais il y a volonté également de la part des a'da al-islam, de la part des ennemis du dîn, des ennemis du dîn d'Allah. Ils veulent détourner la jeunesse de l'obéissance d'Allah. Ils veulent faire en sorte que les jeunes ont autre chose à faire, que leur esprit soit distrait, parce qu'une jeunesse qui grandit dans l'adoration d'Allah, c'est une future génération de muwahhidin, de muttaqi, d'hommes pieux. Des jeunes qui ont grandi dans l'adoration d'Allah, si quelqu'un est resté dans le din ferme jusqu'à l'âge de 35, 38, 39, 40 ans, après ça, la personne, bi'idhnillah, reste dans le droit chemin et il se perfectionne d'année en année. La phase où il deviendra papa ou grand-père ou autre, ce sera un muttaqi, un homme pieux, un exemple de piété, de comportement, de akhlaq, c'est-à-dire des leaders de la umma. Parce qu'ils ont su passer les années les plus dures où on a le plus de tentations, de masti, comme on dit, le plus d'envie de se défouler. Ils ont su canaliser les pulsions, les shahawad pour Allah. Et la récompense, c'est que quand ils passent à l'autre étape de la vie, ils restent, inshallah, dans le droit chemin et ils deviennent des piliers, ils deviennent des modèles pour la société. Différence entre quelqu'un qui a fait les 400 coups et qu'à l'âge de 50 ans, il s'est rangé. même s'il a été sincère quand il s'est rangé. Différence entre cette personne et celui qui a passé sa jeunesse de l'adoration d'Allah jusqu'à que sa barbe blanchit de l'adoration d'Allah. Cet homme-là, ce sera un homme mubarak. Ce sera un homme béni. Ce sera un homme que lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, lorsqu'il dit quelque chose, c'est une leçon pour l'humanité. Parce que c'est des gens qui ont donné leur vie pour le dîne d'Allah. Voilà ce jeune qui restera de l'adoration d'Allah, quand il passera à l'autre étape de sa vie, ce sera un modèle de dîne, un modèle d'être humain, un modèle de akhlaq pour l'humanité et une source de guidée pour les gens. Donc nous devons reconsidérer notre notion de temps quand on comprend dans l'étape, dans les versets qui vont venir après, à partir du moment où les gens récupèrent le livret de compte, que là-haut c'est l'éternité. La notion d'éternité n'existe ni chez les scientifiques, ni chez les philosophes. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le côté rationnel, on va dire, cartésien, j'aime pas ce mot, de l'être humain. C'est une notion en rapport avec Al-Ghaib, avec l'invisible, avec l'au-delà. Mais qu'on sache bien, qu'on comprenne bien que le Akhirat, c'est l'éternité. Et cette éternité, on l'achète avec les quelques jours qu'on passe dans ce dunya. Le marché, la proposition, elle est extraordinaire. Vivez 50 ans, 60 ans de l'obéissance d'Allah, vous avez l'éternité de bonheur. Et l'éternité d'un bonheur perpétuel qui se renouvelle, dont on ne se lasse jamais. Ça, c'est le deal, entre guillemets, qui nous est proposé pour notre passage sur terre. On va terminer. Là, on a juste fait un muraja'a, une révision. Ça, c'est le verset donc où Allah s'adresse à chaque être humain et il rappelle à chaque être humain qu'en finalité, on retourne auprès d'Allah. Et ensuite, là, ça c'était le rappel. Le verset suivant, le verset 6, 7, 8 et 9, 10 aussi, 11 aussi, 12, 13, jusqu'au verset 12, c'est la situation des gens au premier moment de l'au-delà. Là, on a parlé de la fin du monde. On a parlé d'un rappel sur la réalité de cette existence et le rapport entre ce monde et l'au-delà. Maintenant, les autres versets, c'est sur l'au-delà. Et une des premières étapes de l'au-delà, c'est la remise des livrets de compte. Et Allah Ta'ala dit « Fa'amma man utiya kitabahu bi yamini » Celui qui recevra son livret de compte, son livre en sa main droite, sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Encore 3 minutes, Inch'Allah. Ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, qu'Allah nous protège, « وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ » Derrière le dos. Heureusement, Miguel n'est pas fait parce qu'il n'attend dîner. Donc, Inch'Allah, là-haut, Miguel n'aura pas l'occasion aussi. « وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ » Celui qui recevra son livre, c'est l'autre. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même. Il va se maudire lui-même. Pourquoi il se maudit lui-même? Il ne maudit pas les gens qui l'ont amené vers le moulin tango, vers le comment on appelle ça? Je sais pas. Heureusement, je ne sais pas d'ailleurs. Vers ses boîtes de nuit, vers la villa et tout. C'est pas ses amis qui vont maudire. Il va se maudire lui-même. Il invoquera la destruction sur lui-même parce que lorsqu'il verra les situations de l'au-delà, lorsqu'il verra qu'Allah a remis à son voisin, à son ami, à son frère, à peut-être son fils, son livret de compte à la main droite, et que cette personne-là, il revient, celui qui reçoit son livret de compte à la main droite, il y a beaucoup de versets qui décrivent cette situation dans d'autres ayats du Coran, mais ce qui est dans le surat Al-Inshiqaq, ce qui est cité, c'est celui qui reçoit de la main droite. Il y a deux choses citées. Premièrement, la continuité. L'étape après la remise du livret de la main droite, c'est le hisab. C'est qu'on passe devant le tribunal d'Allah et ce sera un passage facile. Ça, on va peut-être expliquer la prochaine fois. Et l'étape suivante, c'est après le passage facile du hisab, le retour auprès de la famille. Et on va voir la prochaine fois que les Mufassins disent qu'il retournera auprès de sa famille ou ça dans le paradis. Dans d'autres versets aussi, il dit que il montrera à tout le monde son livret de compte fièrement. Regardez, Allah m'a accepté, j'ai réussi. Et dans ce verset, il retournera réjoui auprès de sa famille. Certains commentateurs, je crois, disent que retourner auprès de sa famille, c'est-à-dire à sa famille qui sont dans le paradis. C'est-à-dire, il retournera fier auprès de ses proches qui, eux aussi, ont réussi le passage, ont eu un hisab yassir, et qui sont entrés dans le Jannah, et ils vont se retrouver dans le Jannah, et vont se congratuler dans le paradis. Et le mot qu'on doit retenir, c'est masroura, wa yanqalibu ila ahlihi masroura, parce que ce mot-là va revenir par opposition dans la description de l'autre catégorie de personnes, celui qui donc reçoit son livret de compte derrière son dos, la main gauche derrière son dos, et il va se maudire lui-même, wa yasla sa'ira. Et Allah Ta'ala cite les étapes. Il va recevoir son livret, il va se maudire lui-même et la description de sa destinée finale. L'autre catégorie, la main droite, il retourne avec sa famille dans le paradis. Lui, il brûlera dans un feu ardent. Et Allah Ta'ala explique, mais qu'est-ce qui fait que cet homme-là a raté son passage de ce dunya ? Innahu kana fi ahlihi masrura. Je vous ai dit de retenir le mot masrura. Masrura, c'est être joyeux. Le mot masrura, on l'a vu pour celui qui va dans le paradis, qui retrouve ses proches et retournera réjoui auprès de sa famille, alors que la personne qui reçoit son livret de compte de la mauvaise façon, là aussi le mot masrura revient, mais là il dit que innahu kana fi ahlihi masrura, car il était tout joyeux parmi les siens. Et ce verset-là, on commentera la prochaine fois. Les ulama disent que c'est la personne qui a vécu dans le rafla, dans l'insouciance. La personne que vous voyez heureux, il est très souvent un imbécile heureux. La personne que vous voyez décontractée, cool, zen, casse pas la tête, je gère, je suis tranquille. Il a son petit pétard dans la main gauche, il a son tantine dans la main droite, son décapotable qu'il a acheté avec intérêt, avec la banque, etc., etc. Il a l'air cool, zen, il va en boîte ce soir, il va faire la tournée. Dites, c'est un gars qui a réussi. Il est en forme, il n'est pas en forme du tout. Innahu kana fi ahlihi masrura. Il a son pas ahli, Zegman. Et doit tarir encore. Donc c'est pas qu'il était avec sa famille joyeux, lui, il était d'une manière générale les gens qui ont vécu dans le rafla, l'insouciant de ce dunya. Et parfois qu'on admire, nous sortons masjid là, nous marchons pas jusqu'à la case, voilà, il passe de son décapotable, de son je sais pas quel qui a été l'auto, se dit que t'es, lui il a réussi, lui il touche 7000 euros par mois, lui il est heureux, lui il a tout ce qu'il veut, il a cette maison, etc. Mais il vient par cela, il n'a pas de crainte d'Allah, il n'a pas d'amour pour Allah dans son cœur, il n'a rien de tout ça, mais il a des choses de ce dunya. Et on croit que c'est lui qui a réussi. On le prend en exemple. Mais la personne qui a vu que dans Rafla, le jour des comptes, qu'est-ce qu'il fait ? Il se maudit lui-même. Parce qu'il sait que c'est avec ses mains-là qu'il a creusé sa place de le Jahannam. C'est avec ses yeux qu'il a obtenu cette place de le Jahannam. C'est avec ses oreilles, c'est avec ses jambes, c'est avec ses pieds, c'est avec ce cœur, c'est avec ce corps qu'il s'est lui-même construit, réservé sa place de le Jahannam. C'est pour ça qu'en ce jour-là, il ne maudit pas les gens autour de lui, il ne maudit pas l'humanité. Après, il aura l'occasion qu'il va trouver ce ben acolyte dans le Jahannam. Chacun va dire, c'est autre faute, hein, c'est vous qui m'avez amené là, non, c'est vous, etc. Les conversations, il y a des livres qui ont été écrits, na'oud billah, hein, qu'Allah protège sur les conversations d'Ahlun Nar. Innahu lahaqqun takhasumu ahli an-nar. Ça c'est ajib encore ça. Mais là pour le moment, yad'u thubura. C'est comme quelqu'un qui a une mauvaise nouvelle, il s'attrape la tête, il s'arrache ses cheveux. Mais là ça ne sert plus à rien. Là ça ne sert plus à rien. Innahu, parce que dans ce dunya, il était heureux. Il se croyait heureux, mais en ce jour, qu'est-ce qu'il va faire? Yad'u thubura. Et le problème c'était quoi? Innahu dhanna allan yahur. Le gros problème, c'est qu'il pensait que jamais il ne ressusciterait. Il croyait que j'ai tout, j'ai la jeunesse, j'ai la santé, j'ai l'argent, l'amour, la gloire, la beauté, j'ai tout ce que vous voulez. Et donc, il est confiant, il est sûr de lui, mais en aucun moment il pensait, innahu dhanna allan yahur. Jamais il aurait pensé qu'un jour il va mourir et qu'il sera ressuscité et qu'il sera ramené vers Allah. Et qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié le verset qu'on a cité tout à l'heure, le verset 6. Le rappel, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. N'oubliez pas que quelle que soit la manière que vous vivez, un jour vous retournerez auprès d'Allah. Ce rappel n'a pas été fait au début? Oui, il a été fait au début, juste avant l'étape de l'au-delà. Ben justement, il a zappé ça à lui. quand on parlait de ce verset, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il avait des écouteurs peut-être dans les oreilles. Il a oublié qu'un jour il retourne auprès d'Allah. Mais voilà, c'est exactement ce qui est rappelé dans ce verset. Vous voyez le parallèle. Il était heureux dans ce dunya, alors que Lot, il retourne maintenant heureux auprès de sa famille dans le Jannah. Lui, il était heureux. Le moment de Masroura, pour le mu'min, c'est dans le Jannah. Le moment où on vit ce Masroura, épanoui, joyeux, heureux, c'est dans le paradis, dans le Jannah. Quand on dit à Dunya, c'est une mu'minoua, Jannatul lil kafir. Ce bas monde, c'est une prison pour le croyant, mais un paradis pour le mécréant. Pour le mécréant, son Masroura, heureux, épanoui, joyeux, c'était ici. Mais là-haut, c'est Thuboura. Problème. Pour le mu'min de ce dunya, ses difficultés, ses ibtila, ses épreuves, ses taklifs, ses contraintes, ses insultes, ses problèmes dans la société par rapport à son identité, par rapport à son iman. Mais le jour des comptes, il retourne heureux auprès de sa famille dans le Jannah. Subhanallah, vous voyez la différence de conception en ce que nous voyons, ce que nous croyons comprendre, et la réalité qu'Allah révèle au Prophète sallam pour qu'il nous propage, pour nous fasse comprendre que quelle est la réalité. Sachez, ô ummati, ô musulmans, que tout ce que vous voyez là, c'est obéi à Allah. Le ciel, la terre où vous marchez, c'est dur, c'est solide. Pour creuser un bâtiment, vous voyez combien de caterpillars, combien de trucs il faut pour casser. Cette terre-là, Allah leur donne de s'aplatir, de s'aplanir, la terre devient plane par ordre d'Allah. Ce ciel qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, palper, Allah leur donne de se fendre le jour de Qiyamah. Il a sama'un shaqqat, immédiatement il se fend par ordre d'Allah. Tout ça, c'est obéir à Allah. Et donc n'oubliez pas que eux, ils obéissent à Allah maintenant, et ils vont l'obéir le jour des comptes de cette façon-là. Et n'oubliez pas qu'un jour vous serez amené auprès d'Allah pour rendre des comptes. Et que le jour des comptes, il y aura deux catégories de personnes et pas trois. Ceux qui recevront le livret de compte de la main droite et ceux qui le recevront de la mauvaise façon, d'ailleurs le dos. Et parce que le problème avec eux, c'était quoi? C'était Yasla Sa'ira, c'était Innaoukana Ali Masura, c'était ils ont vécu avec rafla, insouciant de ce dunya. Et deuxième problème, il pensait que jamais il serait ramené auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le passé, le présent, le futur qui nous est raconté dans ces quelques versets. C'est une leçon de iman, une leçon de réalisme, une leçon pour qu'on comprenne la notion de temps, la notion de iman, la notion d'action, et qu'on comprenne que nos choix sont déterminants pour notre Akhira. Nos choix de ce dunya sont déterminants pour notre au-delà, pour la place que nous nous réservons nous-mêmes le jour de Qiyamah. Qu'Allah nous accepte, notre tawfiq, moi-même en premier, à nous tous de comprendre ces quelques paroles, ces quelques versets, ce petit muraja, une petite révision qu'on a fait de Sourate Al-Inshiqaq. Et donc la prochaine fois, on va détailler un petit peu plus la situation des gens de droite et les gens de gauche, et on va voir les étapes après. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.